Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode et vous le savez maintenant, on passe par la case sommaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et cette semaine, on va voir, toujours en vrac, une DJ japonaise tout en allant prendre un café sur une table de ping-pong, bah oui, et on va payer le tout avec une montre. Mais ça, ça sera dans la suite de l'épisode, car on va rentrer dans le dur dès maintenant. Et contrairement à ce que pourrait faire penser le titre, je ne vais pas vous donner les clés pour choisir la meilleure ville où habiter au Japon en tant que nomade ou digital nomade. Non, car en fait, je suis en pleine réflexion actuellement sur mes projets futurs et je voulais le partager avec vous et avoir aussi vos bons conseils et vos retours. Vu que certains prennent le train en route, je fais un petit récap 36-15 ma vie, vous avez l'habitude aussi avec ça, je vais donc commencer prochainement à faire du digital nomade. C'est-à-dire que je peux travailler n'importe où dans le monde. En gros, c'est un travail vraiment en remote, en total remote, comme on dit. Je vais travailler pour une boîte canadienne et donc actuellement, je vais pouvoir travailler de Paris, mais je pourrais travailler n'importe où, il y a juste le décalage horaire à gérer. Bon, ça ne vous a pas échappé, je suppose. En ce moment, pour bouger, c'est quand même un petit peu compliqué, Covid oblige, mais ça m'empêche pas de faire des plans pour la suite. Cette année, par exemple, j'espère que j'aurai quand même l'occasion déjà de bouger dans un premier temps en Europe, c'est le plan en tout cas, dès que la situation le permettra, vu que pour l'instant, on est en plein confinement et qu'on peut même pas se déplacer dans le département d'à côté. Mais ensuite, vous vous doutez bien que dans mes petits papiers, j'ai prévu de faire dès que possible le nomade au Japon, forcément. Idéalement, on va être optimiste, on va dire que l'année prochaine tout va bien, que le Covid est un mauvais souvenir et qu'on peut rebouger plus ou moins librement, j'espère pour vous aussi parce que je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent partir en vacances. Dans ce cas-là, je pense que personnellement je partirai en Asie avec pour but principal de faire 2 fois 3 mois au Japon. Car avec un visa touriste, je vous l'en ai déjà expliqué plusieurs fois, on peut logiquement faire 2 fois 3 mois au Japon, c'est même ce que j'avais fait en fin 2019, début 2020. Alors attention, on peut le faire consécutivement, donc à la suite, c'est-à-dire faire les 2 fois 3 mois à la suite, mais vous devez faire quand même une sortie de territoire. Et c'est pas toujours super apprécié. Faut mieux déjà avoir avec vous vos billets d'avion en poche de retour, sinon on risque de ne pas vous laisser passer. Il faudra même avoir tous les billets, c'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai fait ça, la seule fois que j'ai fait ça même, en 2019, quand j'ai pris mon avion, j'avais donc mon avion qui partait pour le Japon, j'avais aussi mon retour qui revenait donc 6 mois après en France, forcément, mais j'avais aussi pris mes billets pour la Corée, c'est-à-dire que je suis parti en Corée au bout des 3 mois et j'avais mon billet aller, mon billet retour pour la Corée. Et on me l'a demandé explicitement dès mon départ, en fait, quand j'ai voulu prendre mon avion en partant de la France. La personne m'a dit, si vous n'avez pas de billet retour, enfin si vous n'avez pas un billet qui coupe en tout cas, parce que moi j'avais déjà le billet retour avec cette compagnie, il m'a dit vous allez rentrer dans 6 mois, c'est pas possible, donc il faut que vous ayez un autre billet au milieu. Donc ils sont très regardants et bon là c'était encore plutôt sympathique, même la personne quand elle a vu, je lui ai expliqué, je lui ai dit oui regardez, donc j'ai dû lui montrer mes billets pour la Corée, lui donner les numéros de billets aussi, les numéros de vol, parce que il a vérifié. Et il m'a dit, vous faites un tour du poteau, etc. Je fais oui, mais pas vraiment, parce que c'est aussi des vacances, je perds 15 jours. Enfin, c'était vrai, je partais 15 jours, j'ai pas fait juste un aller-retour. Mais ils ont vérifié. Et quand j'étais en Corée, quand je suis parti, ça s'est plutôt bien passé, parce que je partais du Japon au bout des 3 mois, donc tout allait bien pour eux. Mais les Coréens, par contre, quand je suis retourné au Japon, m'ont fait patienter pendant de longues minutes et ont vérifié mon dossier, n'ont pas été très très sympathiques, mais vous connaissez aussi mon amour pour la Corée, j'ai pas été hyper bien traité en Corée, ça s'est pas très bien passé avec eux, j'ai quand même réussi à rentrer dans le territoire, mais j'étais prêt parce que j'avais déjà entendu des histoires d'autres voyageurs qui avaient eu les mêmes soucis que moi et qui avaient même eu plus de soucis, certains qui avaient même les billets retour comme moi, mais qui ont été embêtés et on leur a presque forcé à prendre un billet, ils ont dû négocier pendant des heures pour ne pas prendre un billet de retour en France. Donc parfois ça peut être assez compliqué de faire ça, il faut quand même faire attention, c'est faisable, mais il faut faire attention. Et si ça vous intéresse, je peux faire un podcast un jour sur le sujet, vous expliquer comment j'ai organisé en gros le fait d'aller 2 fois 3 mois au Japon, ou pour ceux qui se demanderaient est-ce qu'on peut rester 6 mois ou des choses comme ça, je peux vous faire un petit podcast pour ceux qui aimeraient aller plus longtemps que le fameux visa 3 mois classique touriste. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas du tout, la loi est très nébuleuse, j'avais fait beaucoup de recherches. c'est pas, on va dire qu'il n'y a pas quelque chose de très, voilà, de très bien écrit et de très bien dicté. Les règles sont aussi un petit peu à l'appréciation du douanier. Bref, c'est un peu fouillis. Mais je pourrais vous faire un podcast là-dessus pour ceux que ça intéresse, parce que je m'étais pas mal renseigné à l'époque. Alors, je connais sûrement pas toutes les infos officielles, mais j'avais fait quand même pas mal de recherches à l'époque. Et du coup, bah, j'avais pas mal d'infos là-dessus, puis je l'ai expérimenté aussi. Donc, je pourrais faire un retour là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, etc. Et je ferai un podcast sur le sujet. Mais bref, mon plan idéalement, on va repartir là-dessus, c'est de partir en mars de l'année prochaine au Japon, donc à peu près dans un mois, enfin dans un an, pardon, un mois, parce que non, pas vraiment, un mois je serais content, mais c'est dans un an. Donc de partir en mars prochain au Japon pour 3 mois. Ensuite, ça serait voilà, de rester jusqu'au mois de juin en gros, hein, faire mars, avril, mai. Début juin, vivre dans un autre pays d'Asie pendant toujours 3 mois, puis revenir au Japon en septembre pour faire septembre, octobre, novembre sur place, et repartir en décembre, donc dans un pays d'Asie, encore une fois, pour enfin revenir, on ne s'arrête plus, en mars, encore pour 3 mois. Alors vous avez compris la logique, hein, quoi, c'est pas très compliqué. En gros, rester 3 mois au Japon, et tous les 3 mois, revenir au Japon et faire une pause, en gros, de 3 mois entre chaque. Alors certains vont peut-être se dire, il a un problème avec les 3 mois, pourquoi 3 mois, quoi, c'est pourquoi pas 2, pourquoi pas 4. Alors c'est assez simple, hein, parce que le visa français permet dans certains pays de rester 3 mois sans visa justement, en étant en mode touriste si vous voulez. Si je reste donc 3 mois, j'ai pas de problème pour pouvoir rester dans le pays. C'est aussi le cas aussi dans d'autres pays comme la Corée du Sud par exemple, mais attention, c'est pas le cas avec tous les pays d'Asie. Moi au départ c'est vrai que je m'étais dit, vu que je connaissais beaucoup de pays comme ça où on pouvait rester 3 mois, je pensais que les 3 quarts des pays dans le monde, voire plus, on pouvait rester 3 mois en tant que français, en tant que touriste. Alors non, pas du tout, c'est assez limité finalement le nombre de pays, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est assez limité. Par exemple, il y a certains qui vont me permettre de rester qu'un mois en vacances, sans visa. Il y en a d'autres qui vont même vous laisser que 2 semaines en tant que vacancier. Il me semble que c'est le Vietnam qui fait ça, mais je suis plus sûr. Mais voilà, il y a des pays où c'est très limité, où on va pouvoir rester que 2 semaines en tant que vacancier, sans visa. Mais par contre, il y a certains pays où ça va être... on peut faire des demandes de visa et que ça va être beaucoup plus simple pour rester un mois ou rester 2 mois dans le pays. Alors, c'est souvent limité, mais on peut souvent... peut-être arriver aux 3 mois finalement, juste en faisant une demande de visa simple, et ça se fait parfois sur des sites internet en ligne, c'est payant, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se font un peu de monnaie aussi, hein, on ne perd pas d'argent, mais enfin nous aussi, mais eux non, mais bon, ils ont raison. Hein. Mais par exemple, ça au Japon, on peut pas le faire, on peut pas dire je vais extendre mon visa, ouais, je suis venu en touriste et je vais m'acheter en gros 3 mois de visa supplémentaire, au Japon ça marche pas comme ça. Donc là, on a à la base, vous l'aurez compris, mon but c'est de rester le maximum de temps au Japon, tout en étant dans la légalité, hein, parce que voilà, pour moi, c'est important. Donc, finalement, ça ferait 6 mois par an. Bien sûr, j'aurais préféré faire les 6 mois consécutifs, hein, clairement, mais vous l'avez compris, c'est pas vraiment possible, il faudrait que je fasse une sortie de territoire de quelques jours, c'est ce que j'ai fait donc en 2020, hein, pour aller en Corée du Sud pendant 2 semaines, mais là, je vais espacer, en gros, pour 2 raisons. Un, j'ai pas envie de faire ça trop souvent et que ça soit mal vu un jour dans mon dossier, voilà, qu'on voit que je reviens très rapidement, souvent, etc. et tout. Je préfère éviter parce que je pense qu'à un moment donné, ça peut me retomber dessus. Et vu que je veux vivre au Japon, j'essaye de faire attention. Et de deux, je peux profiter de mes saisons préférées, à savoir l'automne et les sakura comme ça. Et la troisième raison, c'est aussi une bonne occasion pour tester une nouvelle ville où vivre au Japon et pas rester 6 mois au même endroit et se dire je vais pas bouger en plein milieu, etc. Et puis, de toute façon, je pourrais aussi faire cette petite sortie de territoire, comme je vous l'avais dit. Mais le problème, c'est que ça fait des frais supplémentaires. Ça veut dire qu'il faut que je me paye en quelque sorte des vacances, en quelque sorte. J'ai pas du tout envie de faire, il y a des gens qui le font, mais la sortie vraiment d'un jour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont en Corée un jour, ils rentrent le même jour, ça je veux vraiment éviter parce que je pense que ça peut être assez mal vu, ça passe, je sais que c'est passé pour plein de gens, mais je sais que c'est pas passé pour certaines personnes aussi, et que parfois c'est très très mal passé pour des gens qui l'avaient fait souvent, donc il y a des gens qui sont interdits de territoire comme ça au Japon, hein, alors qu'ils avaient leur vie au Japon, mais parce qu'ils faisaient ça tout le temps, donc il faut faire attention à ces choses-là, c'est un peu la roulette russe, donc je préfère éviter ce genre de bêtises, je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais juste que moi, personnellement, je préfère l'éviter. Et en plus, ça fait des frais, c'est-à-dire que ça va me faire des frais d'avion, etc. C'est compliqué, il faut garder son appartement à côté, parce que moi je veux un appartement, je veux pas être en auberge de jeunesse, je veux pas être chez des amis, etc. Donc ça fait des frais supplémentaires, donc je vais essayer d'éviter tout ça. Mais donc, je vous disais que aussi le but c'était de tester des nouvelles villes, vivre au Japon, et c'est un peu finalement le sujet de ce podcast, même si c'était un petit peu long avant, mais il fallait remettre un peu le contexte. Vous le savez, j'ai vécu à Kyoto pendant 1 an et demi, je connais plutôt, voire très très bien la ville, on va dire, et j'aime beaucoup y vivre. J'adore cette ville, j'ai fait un podcast dessus, hein, vous le savez maintenant. Je pourrais donc très bien me dire, allez, retournons à Kyoto, je vais voir mes amis, je vais revoir mes petites habitudes, mes coffee shops, mes petites balades que je kiffe. Il y a encore plein de trucs pour moi à explorer dans le Kansai que j'ai pas fait, voire même à Kyoto, parce que la ville elle bouge et qu'il y a même plein de choses que j'ai pas vues encore. Je sais aussi où trouver des appartements facilement pour Gaijin. Voilà, maintenant je connais assez bien tout ça. Donc ça serait vraiment confort pour moi et ça serait la facilité d'aller à Kyoto et ça serait pas désagréable. Mais voilà, je me dis que mon mode de digital nomade, mon mode de vie de digital nomade, c'est quand même une bonne occasion pour tester de nouvelles villes. Surtout que je veux pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie, hein, forcément. Je veux faire ça pendant un temps. Surtout pour économiser de l'argent, c'est en attendant d'économiser et de vivre au Japon. Et je me dis que avant de m'installer quelque part au Japon, ce mode de digital nomade, de bouger tous les 3 mois, voilà, pourquoi pas essayer des nouvelles villes et qu'il soit pas en mode vacances où tu restes 10 jours ou une semaine, mais plutôt en mode je travaille à distance et je profite des week-ends. Parce que oui, je serai pas là-bas en vacances, hein, je vais pas pouvoir vadrouiller, explorer, etc. Non, je vais avoir des temps libres comme n'importe qui a du temps libre, mais je ne serai pas en vacances, voilà. Et vu que mon but, c'est que dans 2-3 ans, comme je vous l'ai dit, je me pose quelque part au Japon, pour l'instant, a priori, ça serait sûrement Kyoto, vous l'aurez compris, mais peut-être Tokyo, j'en parlerai un petit peu plus tard. Eh bien, je me dis aussi que c'est vraiment l'occasion d'habiter ailleurs, voilà, avant de m'installer définitivement quelque part. Et qui sait aussi, j'aurais peut-être une révélation, ou au moins j'aurais eu le plaisir de mieux connaître quelques villes. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Et forcément, je le partagerai aussi avec vous, parce que même si je serai pas en mode vacances, pendant 3 mois, j'aurai le temps d'explorer les week-ends, de me faire un petit peu plaisir, et de profiter de la vie pendant mes temps libres, sachant que j'ai du décalage horaire, donc si je suis au Japon, a priori, je devrais travailler la nuit de 22h jusqu'à 6h du matin. Donc j'aurai mes journées, enfin mes après-midi et mes soirées quand même, pour moi, quand j'aurai pas des choses à faire à côté. Alors du coup, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je suis pas là-bas en touriste, hein, je vais travailler. Donc j'aurai des horaires un peu bizarres, vous dites c'est un peu des horaires un peu chelous, mais moi j'ai pas trop de problèmes de sommeil, j'ai pas trop de problèmes de décalage horaire, j'ai pas trop de problèmes pour travailler dans des horaires un peu à la con. Donc voilà, ça veut dire que mes journées, vu que je vais travailler la nuit et que je dorme quand même hein, à un moment donné, parce que j'irai me coucher sûrement vers 6h du matin, 7h du matin, ça veut dire que mes journées, mes vraies journées après m'être lavé, etc., je vais pouvoir commencer vers 13h, 14h je pense, et je pourrai donc profiter des après-midi et des débuts de soirée pour me poser dans un café par exemple, ou faire une petite balade en centre-ville, voire tester un restaurant avant de commencer ma journée de boulot, enfin ma soirée de boulot plutôt. Bon, tout le monde pourrait pas faire ça hein, je pense, hein, mais c'est pas trop un problème pour moi comme je vous l'ai dit, les horaires décalés. Du coup, ça veut dire que la semaine, je vais quand même travailler. Et que la journée, je pourrais de temps en temps me poser dans un café, hein, voilà, faire une petite balade, mais ce sera vraiment de temps en temps et ce ne sera pas des grosses balades. Mais les week-ends, j'aurai du temps libre. Mais bon, vivre au Japon, déjà pour moi, ça me va, hein, même si je suis pas en vacances, même si je dois travailler là-bas, je serais déjà très content d'aller vivre au Japon. Je préfère faire ça au Japon qu'être en France ou qu'être n'importe où. Voilà, c'est mon pays de cœur, donc voilà, c'est pas grave si je ne suis pas en touriste, hein, je serais déjà très content comme ça. Et au final, la question que je me pose, c'est où est-ce que je peux aller ? Car techniquement, il y a pas mal de villes sympas au Japon, il y a vraiment le choix. Je dois l'avouer, j'ai un peu envie d'éviter le Kansai, hein, vous l'avez compris, parce que Kyoto quoi. Kyoto, j'ai habité là-bas, j'ai bourlingué dans le Kansai pas mal, donc me retrouver à Osaka ou Kobe, ça serait sûrement pas désagréable, mais je préfère aller chercher un peu de nouveautés. Et en plus, je vous l'avais déjà expliqué, je crois, j'aime vraiment beaucoup Kyoto, et entre Kobe et Osaka, je préfère vivre à Kyoto qu'à Kobe ou à Osaka. C'est toujours bien d'expérimenter, mais je pense que je suis quand même mieux à Kyoto en général. Donc aller vivre à Kobe ou Osaka, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi, pour tester en tout cas. Et dans mon idée, pour l'instant, il y a 3 grosses villes qui ressortent. Il y a Fukuoka, Sapporo et Tokyo. Alors Fukuoka, parce que c'est une ville que j'ai toujours appréciée, c'est un petit centre-ville pour moi, vraiment, c'est un peu un mix de Kyoto et Osaka, le côté centre-ville Osaka de grosses villes, Kyoto qui n'a pas ce côté gros centre-ville, mais pour moi Fukuoka reste pas trop gros non plus, c'est-à-dire qu'il y a 1,4 million d'habitants, et c'est très concentré j'ai l'impression, et après il y a la mer, etc. C'est dynamique, voilà, c'est une ville que je trouve plutôt dynamique, il y a aussi des montagnes, il y a la mer, comme je vous disais, la plage, et autant y habiter 2 ans, je me posais des questions, car on est quand même éloigné de tout comparé au Kansai par exemple. Pour aller faire des balades, aller dans des trucs différents, il y a des choses à faire, hein, y a la campagne, mais c'est pas comme le Kansai où vous avez plein de choses à faire facilement en train, ça vous coûte pas un bras et vous pouvez explorer plein de choses. Mais du coup pour 3 mois, pour moi la vie ça semble assez parfaite à tester. Il y a des coffee shops sympas, le Horikoen qui est le grand parc, il est super agréable pour les balades, tout comme les plages, hein, y a des plages à Fukuoka, c'est quand même hyper chouette. J'ai encore pas mal de choses à découvrir, même si j'y suis déjà allé, je pense, à peu près 15 jours en vacances en cumulé. Donc des choses à découvrir en ville et autour. Et aussi, je pourrais très bien me faire un petit week-end à Nagasaki, par exemple, pour rester 2 jours sur place. Je suis jamais allé à Nagasaki, ça serait vraiment l'occasion. Il doit y avoir des bus de nuit pas trop chers, je suppose, donc il y aurait moyen de faire ça sans que ça me coûte un bras. Et en parlant de pas cher, justement, Fukuoka, les loyers, bah, c'est moins cher clairement que Kyoto ou Tokyo, hein. Après, mon problème, c'est que j'ai pas de visa. Donc je peux pas prétendre à prendre un appartement, on va dire, normal. Et en plus, je reste que 3 mois. Donc louer un appartement pour 3 mois, normalement, ça se fait pas trop, à part voilà, pour les visiteurs de courte durée, comme on dit. L'idéal pour moi, c'est bien sûr les Airbnb. Pour les nomades, c'est ce qu'on utilise souvent. Mais bon, les Airbnb, c'est souvent pas donné. Et au Japon, vous savez, ça coûte cher. En vacances, quand vous partez 2 semaines, ça va, vous allez avoir vos petits budgets, ça va vous faire mal un peu aux fesses, mais voilà, on se fait plaisir, c'est les vacances. Mais si vous devez payer 1 mois, ça peut vite grimper et vous faire un loyer qui pique beaucoup trop. Il y a parfois des bons prix, mais voilà, il faut bien chercher et ça peut être un petit peu compliqué. Donc la facilité d'avoir un appartement tout compris pour une courte période sans visa va aussi rentrer en compte dans le choix de mes villes, hein, forcément. S'il y a des villes où il n'y a pas vraiment de choix pour ça, bah ouais, si soit il n'y a que des Airbnb qui sont très chers, bah ça sera pas pour moi. Ou s'il y a des appartements pour Gaijin pour 3 mois, mais qu'il faut payer des frais d'entrée de, je sais pas, 500, 600, 800 € et que le loyer est très cher, ou que le loyer, je sais pas, être à 700 €, 800 €, bon, bah clairement, ce sera pas intéressant pour moi. Vous vous doutez bien que Tokyo, ça va être très cher, mais ça, je vous expliquerai, c'est un petit peu spécial. Ensuite, je vous ai parlé aussi de Sapporo. Là, je connais pas du tout la ville, hein. J'y suis jamais allé. Je suis jamais allé plus au nord de Tokyo, à vrai dire, hein. Je suis même pas allé à Nikko, le classique, voilà, pour les touristes. Moi, j'ai toujours fait le sud, j'ai jamais fait le nord de Tokyo. Donc, je suis totalement profane sur ces coins-là. Mais ça me tente bien parce que c'est une des plus grandes villes du Japon déjà, hein. Il y a 2 millions d'habitants, il me semble à peu près. Et ça serait l'occasion justement de découvrir aussi Hokkaido. Même si, encore une fois, vous l'avez compris, je ne vais pas partir en trip dans la forêt profonde au loin dans Hokkaido. Hein. J'aurais pas le temps, j'aurais vu des week-ends. En plus, moi, je vais travailler le vendredi soir. Je reprendrai le lundi, mais bon, ouais, on est un peu décalé, c'est un peu compliqué. Mais je pourrais au moins découvrir autour. Et là, je serais vraiment dans la totale découverte. Que ça soit la ville et les alentours, il y a quand même de quoi faire aussi là-bas. Donc mon expérience là-bas serait peut-être un peu plus excitante que d'aller à Fukuoka, par exemple, pour le côté bah justement un peu vacances, enfin week-end on va dire, car j'aurais tout, ouais, mais vraiment tout à découvrir. Les prix comme à Fukuoka là-bas doivent être un peu plus raisonnables de ce que j'avais pu repérer aussi, mais ça c'était en termes voilà étudiant, donc après faut voir encore une fois en tant que vacancier, je suis pas vraiment vacancier mais vous l'avez compris. Mais j'avoue la ville me tente pas mal au final, même si bah voilà autant j'aimerais peut-être pas, hein, je connais pas du tout, c'est un pari on va dire, mais bon c'est un pari qui est pas risqué car au Japon il y a quand même peu de villes que j'ai trouvé vraiment mais vraiment nulles quoi. Il y a des villes pas funky, ça c'est vrai, hein, j'en ai vu, hein, bon bah je pense que quand on y habite c'est pas non plus la folie, on peut un peu s'embêter quoi. Mais ça reste toujours sécure, et moi qui aime faire des photos et me balader, il y a peu de chances que je m'ennuie, j'arriverai toujours à trouver des petites balades à faire un petit peu en province, hein, vous voyez, en banlieue d'une petite ville, etc. Il y aura toujours de quoi faire. Autre option, donc j'en ai parlé, c'est le classique, hein, c'est Tokyo. Bon, Tokyo, vous connaissez tous, hein, moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai fait en cumulé peut-être plus de 2 mois sur Tokyo à travers toutes mes vacances, je pense. Mais j'avoue, vivre à Tokyo pour moi, c'est un peu un rêve. Je serais déçu si dans ma vie, j'ai jamais pu vivre plus de 6 mois, on va dire, ou 1 an, voilà, 1 an à Tokyo. C'est une expérience que j'aimerais bien faire un jour. Bon, là, vous l'avez compris, hein, je pourrais pas le faire cette fois-ci parce qu'au mieux, je pourrais faire des sessions de 3 mois. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire 2 sessions de 3 mois pour pouvoir vraiment appréhender la ville, même si c'est pas consécutif et que c'est pas l'idéal. Mais si vous avez fait des calculs, pour l'instant, j'aurai 3 sessions de 3 mois disponibles. Mais bon, on ne sait pas du tout ce que réserve l'avenir. Peut-être que je vais continuer d'être nomade pendant 3 ans en restant en Asie et du coup, j'aurai encore 3 autres sessions qui me laisseraient le temps de faire 6 mois en cumulé à Tokyo et de faire Sapporo, Fukuoka et peut-être d'autres villes, quoi. On ne sait pas. Mais alors, pourquoi Tokyo? Je vous l'ai dit, pour m'installer, dans ma tête, il y a 2 villes que j'ai ciblées. C'est Kyoto et Tokyo. Kyoto, je connais, hein, c'est chez moi, j'ai pas besoin de réfléchir, faire des recherches, je connais la ville, je connais les points positifs comme les points négatifs, ouais, je connais très bien la ville, je sais que je m'y plairais, je sais ce qui me saoulerait à Kyoto, etc. Mais voilà, je peux, si demain on me dit fais tes valises et tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie à Kyoto, je peux signer le papier. Voilà. Tokyo, je connais bien aussi, mais j'ai pas vécu. Ouais, j'ai pas vécu, je suis toujours allé en vacances. J'ai pas eu à vivre les mauvais côtés de la ville, on va dire, au quotidien. De plus, Kyoto versus Tokyo, il y a des grosses différences quand même. Si je fais guide un jour au Japon, en termes de tourisme, je pense que c'est assez kiff-kiff. Par contre, en termes de vie, c'est très très différent. Tokyo, la vie est vraiment beaucoup plus chère qu'à Kyoto. Donc vivre à Tokyo, pour moi, why not? Mais il faut les revenus plus importants pour pouvoir bien vivre là-bas. Bien sûr, c'est très très personnel, hein. On peut vivre à Tokyo avec des revenus plus limités, mais à revenu équivalent, personnellement, surtout s'ils sont pas voilà, très très hauts, bah je préfère vivre à Kyoto parce que ça sera moins cher. Mais si par contre j'ai des revenus équivalents et que voilà, ils sont des bons revenus, on va dire, bah Tokyo, j'aurais un... ça sera... ça, je préfère. Mais bon, Kyoto a des revenus normaux, on va dire, j'aurais un plus grand appartement, je pourrais vivre dans le centre, mon cadre de vie sera quand même beaucoup plus agréable, j'aurais pas des transports à faire en étant coincé pendant 4 heures. Mais encore une fois, ça reste un choix qui est très personnel. Personnel, pardon. Tokyo, par contre, ça peut me permettre de m'ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que j'aimerais tenter aussi. Je suis freelance, donc je pourrais peut-être trouver du travail avec des étrangers ou des japonais qui parlent anglais. Chose qui est beaucoup plus rare à Kyoto, hein, voire très très rare. La plupart des étrangers qui font du business, au final, ils vont être à Tokyo. Donc pour faire du réseau, ce sera plus efficace. Et mine de rien aussi, hein, on va le dire, pour les filles, bah, la barrière de la langue, ça n'aide pas beaucoup à Kyoto. Voilà, c'était compliqué parfois. Et les filles qui parlent anglais, il n'y en a pas tant que ça, voire pas beaucoup. Et mon japonais est super limité, donc du coup, bah, c'est compliqué. Alors qu'à Tokyo, la ville est plus cosmopolite, je l'ai vu hein, juste en vacances, c'est beaucoup plus facile de parler avec des gens à Tokyo, avec des inconnus, qu'à Kyoto, car la maîtrise de l'anglais est quand même plus développée. Bref, j'aimerais du coup tenter 6 mois à Tokyo pour voir si vraiment je ressens ces points positifs, si j'arrive à trouver plus facilement du réseau, des opportunités en gros, hein, que ça soit pour le travail ou même des opportunités amoureuses, hein, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais voilà, ça pourra m'aider pour mon choix au final de savoir où s'installer et où installer mon business au Japon d'ici quelques années. Car si finalement le gap n'est pas extraordinaire en termes de réseau et etc., puis peut-être en termes de vie en général, je vais moins apprécier, bah autant aller à Kyoto, hein, comme je vous l'ai dit, hein, la vie sera plus confortable pour moins cher, donc il y a quand même des gros côtés bénéfiques à vivre à Kyoto. Aussi, vous l'avez compris que vivre à Tokyo, je vous ai parlé du prix des loyers, ça va être un peu compliqué, ça sera pas du tout le même. On connaît les prix des loyers à Tokyo, c'est monstrueux par rapport aux autres villes, hein, un peu comme quand vous habitez Paris, vous habitez en province, et les prix sont monstrueux. Mais ça serait peut-être un petit effort financier que je ferais. Je peux le faire techniquement, a priori, si tout va bien dans mon budget, mais c'est juste que j'économiserais moins d'argent, donc je pourrais aller moins vite au Japon après derrière. Mais je pense que c'est quand même une bonne opportunité d'essayer pour voir ce que ça donne et voir si bah, pour la suite c'est un bon plan ou pas. Mais du coup, bah, j'aimerais avoir votre avis, car ça fait toujours du bien d'échanger, d'avoir des avis différents, ou alors des avis qui confortent ses choix, ou qui permettent de réfléchir dessus. Car en plus, je suis pas du tout fermé pour tester une ville auquel j'ai pas pensé, vraiment. J'ai pas envie de, tu vois, m'enfermer dans une toute petite ville non plus, hein, parce que je suis quelqu'un quand même qui est assez citadin. J'ai pas le permis, donc pour moi, il faut les commodités d'une ville quand même, voire d'une grande ville. Mais je me dis, pourquoi ne pas aller, bah, par exemple, à Nagoya ? Voilà, j'ai déjà vécu, j'ai fait 10 jours de vacances, c'est pas la ville la plus funky du monde, mais pour y habiter, ça peut être peut-être sympa et agréable. Ou aller vivre à Hiroshima, par exemple. Pourquoi pas faire 3 mois à Kamakura aussi, qui pourrait être hyper plaisant avec la mer, la forêt, la ville. Voilà, c'est attractif comme coin, et c'est proche de Tokyo. Pour travailler, ça peut être très agréable, parce que c'est pas non plus perdu, mais vous avez la mer, vous pouvez faire une petite balade le long de la plage avant de commencer à travailler le soir. C'est quand même très agréable, et vous êtes à Tokyo en 1 heure. Bon, bah voilà, de temps en temps, les week-ends, vous pouvez y aller. Après, pour moi, je pense que Kamakura, trouver un prix pour un appartement, ça doit pas être donné non plus. Ça me plaît bien, l'idée de Kamakura, mais je pense que, voilà, niveau financier, ça sera plus raisonnable d'aller à Fukuoka ou à Sapporo, par exemple. Et je vais pas pouvoir faire que des endroits au Japon où ça coûte très cher. Je peux peut-être me le permettre pour Tokyo pour essayer, mais après, voilà, je peux pas faire ça tout le temps non plus. Et il y a sûrement des villes auxquelles aussi j'ai pas pensé. Donc si ça vous dérange pas, bah, j'aimerais bien que vous partagiez, vos idées, vos bons plans. Moi j'aime bien partager mes bons plans. Et bah, cette fois j'aimerais que ça soit vous m'aidiez et vous me donniez votre avis pour m'aider dans mes projets futurs. Bien sûr vous l'aurez compris, hein, j'ai déjà quand même pas mal réfléchi à la question. Mais bon, j'ai encore le temps de faire un choix pour ma première destination. Parce que mars, bah, comme je vous l'ai dit, c'est dans un peu moins d'un an. Donc j'ai vraiment encore le temps de changer d'avis. Surtout que j'ai pas tranché pour l'instant quoi. Et puis peut-être que si par miracle cet été tout va bien, on sait jamais, croisons les doigts, hein, et que les frontières réouvrent, si je peux partir cet automne au Japon pour 3 mois et commencer mon périple en Asie, je sauterai vraiment sur l'occasion, hein, ça me fera 3 mois de plus, et donc une destination de plus, on sera à 4 fois 3 mois pour l'instant, et ça serait totalement faisable de faire 2 fois Tokyo, 1 fois Fukuoka, 1 fois Sapporo, et après on verra si je dois continuer ou si j'ai l'argent qui me permet de m'installer, de créer mon business au Japon. Bref, si vous pensez à une ville, si vous avez une idée, sachant qu'il faut aussi que mon budget n'explose pas, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'Hiroshima et Nagoya sont peut-être des bonnes destinations, hein. Vous connaissez peut-être bien les villes, donc n'hésitez pas à m'en parler, et sachant que je reste que 3 mois, je prends pas de risque non plus pour aller dans une ville moins attractive sur le papier hein, aussi. Hein. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire de cet épisode, ou bien sur les réseaux sociaux, vous les connaissez maintenant, mon Instagram c'est NJ. NGEE, ou mon Twitter, Dandy Kitsune, ou la page Facebook de l'émission qui est Explore Japon, ça c'est encore moins compliqué à trouver. Mais voilà, on a fait le tour pour cette fois-ci. Pareil, si vous êtes intéressé par avoir des infos sur vivre 3 mois au Japon ou 2 fois 3 mois, je vous l'ai dit, faites-le moi savoir et je ferai un podcast pour expliquer comment j'avais fait, comment ça marche, etc. Ça me fera plaisir de vous aider. En attendant, on va passer à l'instant moment de la semaine. Et cette semaine, on va mettre du bon son dans ton Insta. Bon, en fait, j'en sais pas vraiment grand-chose, parce que c'est sûrement pas la musique que j'aime, déjà. Et en plus, je sais pas du tout quelle musique elle fait, mais on va suivre une DJ Kyoto-hit, ou plutôt d'Osaka, je crois, mais moi, je l'ai souvent vue sur Kyoto. Alors, me demandez pas aussi où je l'ai vue et d'où je la connais, parce que comment je l'ai découvert, parce qu'en fait, je la suis via son compte Instagram, je l'ai jamais vue en vrai, enfin, je ne pense pas, peut-être, mais je ne l'ai pas vue. Mais parce que je sais qu'elle est souvent sur la scène caféinée de Kyoto, donc je l'ai déjà vue sur les Insta de machin, de trucs, etc., dans tel et tel café, et qu'elle a fait aussi des events café où elle faisait la musique avec tous les baristas de Kyoto. Oui, bah oui, il y a des choses comme ça qui existent. Donc voilà, c'est comme ça que je l'avais découvert et que j'ai découvert son Instagram. Alors vous attendez pas à un compte waouh, un compte waouh Japon, touriste, c'est génial, on va visiter le Japon, des photos plein les yeux, comme parfois je peux vous en parler. Là, vous allez suivre sa vie, donc du selfie, beaucoup de selfies, des endroits un peu luxueux, du sac Vuitton, voilà, c'est un peu le genre. Mais ce que j'aime bien sur Instagram, c'est suivre des gens et des profils qui sont vraiment différents et qui me font découvrir des aspects différents du Japon, pour pas avoir qu'une seule idée et de se dire « Ah, le Japon, c'est Megumi en kimono, qui va au temple, etc. » Bah non, voilà, le Japon, c'est plein de gens différents et plein de choses différentes. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez suivre vous aussi son compte qui s'appelle DJ Yumiko, qui est donc basé à Osaka. Comme d'hab, vous aurez les liens en description sur la page de l'émission explorejapon.com. Mais vu que je l'ai découvert via le monde des coffee shops japonais et que je vous ai parlé de Nagoya, eh ben soyons fous, on va faire un mix dans la rubrique Voldemort. Oui, cette semaine, je vais donc vous parler d'un café à Nagoya. Alors, j'allais vous dire qu'on allait visiter Streamer Coffee Company Sakae, mais vu que la dernière fois que j'y suis allé à la base, c'était en 2017, parce que 2017, c'est encore plus loin, 2017, je me suis dit que j'allais quand même vérifier si ça existait toujours, hein, parce que au Japon, les commerces, ça bouge beaucoup, Covid ou pas Covid, hein, y en a plein qui ferment et qui ouvrent tout le temps. Et j'ai bien fait, car non, ça n'existe plus. Alors vous allez dire, mais alors du coup, pourquoi tu nous en parles? En fait, si, parce que ça existe toujours, c'est toujours un café, mais la marque a changé, tout simplement. Alors, Streamer, ça existe toujours, un Streamer Company, la marque existe toujours, mais ce café-là n'est plus un Streamer Company. Voilà. Alors, pourquoi en parler? Eh bien, car on a peur de rien, voilà, tout simplement, et qu'on se dit que pourquoi on n'en parlerait pas? On me dit, oui, mais tu l'as pas essayé. Alors, c'est vrai, mais j'ai l'impression que la déco n'a pas grandement changé et que j'avais surtout apprécié ce café pour sa disposition et sa déco, donc pourquoi pas en parler? Car niveau café, Streamer, c'est une chaîne, genre un Starbucks, un peu dans le like, un peu un Starbucks au-dessus, on va dire. Mais c'est une chaîne, il y en a beaucoup. Il y en a dans les principales villes, on en trouve parfois à Tokyo, d'en avoir 4 ou 5, je pense, même peut-être un peu plus. Après, c'est beaucoup moins développé qu'un Starbucks ou que même les cafés un peu plus bas de gamme, comme les Trulli ou les choses comme ça. Mais surtout, à l'époque, ce café m'avait surpris car il y avait une terrasse. Et c'est pas un truc qu'on voit partout au Japon, des terrasses. Mais le truc qui m'avait surtout surpris, c'est qu'au fond, il y avait des gradins. Et une table de ping-pong, alors non pas pour jouer, mais pour se poser autour et boire un café dessus. Voilà, oui, on est au Japon, hein, on aime bien sortir des sentiers battus sur la déco, et là, on était en plein dedans. Hein. Donc vous pouvez donc vous poser autour d'une table de ping-pong avec le filet qui est là, qui est dispo, etc., Enco, pour boire votre café. Le lieu était hyper confortable, vraiment. Il y avait des gros fauteuils en cuir un peu partout, et surtout ce principe d'estrade en fond de salle, on serait presque cru dans un stade, et ça ressemble beaucoup finalement à Walden Woods, le café où j'allais beaucoup. À Kyoto, mais celui-là je l'ai connu avant. Walden Woods, ça fait plus galerie d'art, on va dire. Là on était plus le côté ambiance stade, mais c'était rigolo, puis c'était pas toute la salle, c'est juste le fond de la salle où il y a des estrades. J'ai de très bons souvenirs là-bas, déjà car les clients étaient principalement des clientes, je dois l'avouer, et donc j'avais beaucoup de regards sur moi à chaque fois que j'y allais, vraiment j'étais un petit peu l'attraction du truc, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, j'étais même le seul. J'ai dû aller 7-8 fois pendant 10 jours passer sur Nagoya, parce que mon appartement aussi n'était pas très loin, et on n'a jamais aussi été plus de 2 mecs dans la salle en même temps. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est véridique, hein. Je demande même s'il n'y avait pas une genre de règle qui interdisait d'avoir plus de 2 garçons, je sais pas, c'était bizarre dans le café, et surtout que c'était un grand café, donc il y avait vraiment beaucoup de monde, mais jamais plus de 2 garçons. Du coup, bah, comme je le disais, j'étais souvent très scruté de toutes parts. Et bon, ah, on va l'avouer, hein, c'est pas désagréable. Hein, donc, bon souvenir pour moi, ce café. Et d'autre part, en plus, les baristas étaient super gentils. Ils parlaient, mais alors pas un mot d'anglais, hein, mais vraiment pas un seul. Mais vu que la première fois que j'y suis allé le matin, enfin, la première fois que j'y suis allé le matin et le soir, en fait, en fin de journée, je suis revenu, ils ont dû se dire, oh là là, bah, c'est un nouvel habitué, c'est sympa, il revient. Ils sont contents, souvent, quand on fait ça dans les cafés ou autres, les gens sont contents de vous revoir. Et du coup, bah, je voyais que voilà, ils avaient l'air heureux. Hein. Je me souviens même qu'un des baristas, il avait trop le sourire. Il me regardait avec des yeux, mais vraiment frétillants, etc. Les deux premières fois où je suis venu. Et à un moment donné, bah voilà, il y a quelqu'un qui me sert mon café et il l'a un peu poussé, bousculé, remplacé pour prendre, voilà, pour prendre. Peut-être qu'il voulait me draguer, je ne sais pas. Peut-être louper quelque chose, mais vraiment, je me suis dit, tiens, mais pourquoi il fait ça? Mais il a un peu remplacé la personne qui est en train de me faire mon café pour me le servir et il a commencé à me parler. Je lui ai dit 3-4 mots en japonais, donc là j'ai senti, mais vraiment ses yeux qui pétillaient. Mais en 2017, mon niveau était encore plus bas. Et puis bah du coup, il commençait à blablabla, et là j'ai fait ah bah non, désolé, je parle pas. Et je lui ai répondu en anglais quoi. Et bah là, ça a été le drame. Vraiment un drame pour lui parce que j'ai jamais vu un mec aussi triste de ma vie passer d'un état de genre j'aime la vie, j'aime les gens, waouh, c'est la plus belle journée de ma vie, à mon Dieu, j'ai envie de m'ouvrir les veines. C'était vraiment très drôle, enfin pas drôle pour lui, mais le changement vraiment d'état était surprenant. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler, intérieurement bien sûr. Et je l'ai vu s'éloigner en plus, voilà, vraiment le regard hagard totalement perdu. Je crois que je lui avais vraiment foiré sa journée en parlant anglais et il a dû se dire ah merde, il parle pas japonais, je suis dégoûté alors que je voulais lui parler. Bah moi aussi j'étais dégoûté, hein, je dois l'avouer, hein, parce qu'il avait l'air, bah voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui avaient l'air aussi enthousiastes de vous voir alors qu'on se connaît pas. Mais bon, bah, c'est comme ça. Enfin bref, ce café s'appelle maintenant Base Lab Sakae Mokuba. A priori, ils en ont un autre à Nagoya, dans la Nagoya Tower, et dans une autre ville japonaise, bon, j'ai totalement oublié le nom, je sais pas si c'est Takamatsu ou Takayama, c'est un des deux je crois. Si je repasse à Nagoya, j'irai voir si le lieu a changé ou pas. D'après les photos, il n'a pas trop changé, mais peut-être que c'est récent. Mais si vous y êtes passé avant moi, bah, n'hésitez pas à me dire s'il y a toujours ces gradins et cette table de ping-pong qui, pour moi, bah, voilà, était le concept assez marrant et plutôt chouette de ce café. Mais il est temps maintenant de passer à mon coup de cœur de la semaine. Et il va être totalement consumériste, je l'assume. Je vous ai déjà dit que j'étais devenu un Apple intégriste. Je continue ma radicalisation vu que j'ai acheté une Apple Watch. Et je dois dire que j'aime beaucoup. J'avais déjà une montre connectée depuis 3-4 ans à peu près, une Huawei, qui ne me servait pas à grand-chose, je dois l'avouer. Voilà, quand on me demandait, mais c'est bien une montre connectée, je répondais, c'est gadget. Voilà, c'est totalement gadget. Elle était jolie, j'avais souvent des réflexions, même en me disant, ah, c'est quoi ta montre? Elle est vachement sympa, qu'est-ce que c'est, etc. Au Japon, j'ai eu beaucoup cette réflexion, ce qui me surprenait, parce que moi, je la trouvais assez lambda, mais a priori, les gens l'aimaient bien. Mais voilà, quand on me demandait, alors ça vaut le coup d'acheter une montre connectée? Non, bah, franchement, moi, la Huawei, avec ce que j'en faisais, à part si vous êtes sportif, etc., mais sinon, moi, pour ce que j'en faisais, les notifications, c'était pas très lisible dessus, ça servait pas à grand-chose à part à donner l'heure, donc ouais, voilà, si, peut-être pour faire play-pause, je me rappelle, voilà, je m'en servais parfois pour écouter de la musique, mais quasiment pas, parce que enfin, c'était pas très bien fait non plus, mais elle date, hein, elle datait, je pense que maintenant, ils font des trucs vachement mieux que ça. Mais donc, du coup, j'ai quand même craqué et j'ai acheté une Apple Watch, et j'avoue que celle-ci, je la kiffe pour un truc déjà très basique, c'est le paiement. Alors, j'ai pas de portefeuille, moi en général, un gros portefeuille, etc. Du coup, j'ai un mini porte-carte qui traîne dans mon sac à dos et ma carte principale qui est souvent dans une de mes poches de mon pantalon. Et là, franchement, de pouvoir payer en un clic sans faire de code, sans en avoir à lever son masque pour faire voilà, une identification faciale pour payer avec son téléphone, j'avoue que c'est rapide, efficace et j'adore, mais vraiment j'adore payer avec mon Apple Watch. Alors bien sûr, hein, il y a aussi le côté gadget, hein, etc. Il y a tout le monde qui vous dit, ah mais tout le monde vous regarde en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le mec vous dit, ah c'est super, ça engage la conversation aussi parfois, donc c'est marrant. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein, c'était un petit plaisir, un petit kiff. Et j'avoue que je kiffe encore plus de payer avec parce que bah, c'est pratique tout simplement, vraiment. C'est gadget, avouons-le, mais c'est pratique. Je la trouve en plus élégante. J'aime bien tout l'écosystème aussi avec les bracelets qu'on peut changer facilement. Il y en a plein de couleurs différentes, etc. Là, j'ai un bracelet à taille unique qui est hyper agréable à porter avec une très belle couleur rouge, très punchy. J'adore les couleurs, donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment in love avec ma montre et il m'en faut peu. Et je dois avouer que même pour tout le reste, par rapport à ma Huawei qui avait 3-4 ans, encore une fois, hein, je ne les compare pas parce que c'était, voilà, c'est vachement plus pratique, là, lire les notifications, les gérer, il y a plein d'options que je fais, que je trouve pratiques, qu'avant ma montre, je ne l'utilisais pas pour ça. Celle-ci, je l'utilise quand même beaucoup plus. Donc pour l'instant, j'en suis vraiment très satisfait. Et je me vois aussi déjà l'utiliser dans les transports au Japon ou au Combini pour limiter la monnaie, parfois qui est pour moi l'antre de l'enfer quand on vit au Japon. Parce que oui, quand je vis au Japon, j'ai un porte-monnaie qui est au passage hyper kawaii, hein, je kiffe mon porte-monnaie. Mais bon, je déteste la monnaie et au Japon, il n'y a pas le choix, malheureusement. Mais je pense que l'Apple Watch me permettra de payer directement, voilà, parce que les Japonais sont assez friands d'Apple et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont connectées avec l'Apple Wallet, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir essayer ça au Japon. Voilà, c'était mon petit plaisir consumériste, l'Apple Watch. Désolé, mais voilà, je kiffe, c'est mon nouveau joujou. Oui, mais voilà, on va s'arrêter là et je vous dis donc à très vite la semaine prochaine, bien sûr, vous connaissez la chanson, pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous dis le fameux à bientôt. Mata raishu, ciao, bye bye. You know.